Bien, bonjour et bienvenue à tous. Donc, la semaine dernière, nous reprenions le fil de notre propos sur ce que j'ai appelé la prétention chinoise à l'universalité, prise sous l'angle du continuisme anthropocosmique, c'est-à-dire entre le cosmos et l'homme, de la culture ritualiste. Continuisme qui rend assez malaisé, voire distordu, l'assimilation de cette culture ritualiste aux conceptions d'origine européenne et avant tout chrétienne de la religion, avec ses dichotomies dualisantes entre transcendant et immanent, entre divin et humain, entre sacré et profane, etc. Donc, comme nous le rappelions la dernière fois, ce continuisme anthropocosmique s'exprime avec force et de manière hautement formalisée dans un ensemble de textes de la toute fin de l'Antiquité préimpériale et du début de l'ère impériale, c'est-à-dire en gros du 3e siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au tournant de l'ère chrétienne. Alors, parmi ces textes, on trouve en premier lieu des traités ritualistes, comme le traité des rites, le Li Ji, dont nous avons parlé et dont j'ai rappelé qu'il fait l'objet de nos séances de lecture en séminaire le jeudi après-midi. Donc, il y a ces traités ritualistes, mais il y a aussi un ouvrage attribué à l'un des maîtres à penser du 3e siècle avant l'ère chrétienne, à savoir le Xunzi, qui fixe de manière frappante et puissante la triade ciel, ici, tien, que vous avez ici, terre, ti, et homme, ren. Dans ce chapitre que vous avez en haut de la diapositive, consacré au ciel, le tianlun. Dans un autre chapitre du même ouvrage, le Xunzi, qui est lui consacré au rite, le Li Lun, Xunzi assigne au rite trois racines. Vous avez cette première phrase, donc Li Yo Sanben, c'est-à-dire donc les rites ont trois racines. Alors, j'attire votre attention juste pour ceux d'entre vous que ça peut amuser un peu. Donc, le mot racine, c'est celui-ci, qui en fait est dérivé de ce caractère-ci qui veut dire un arbre ou n'importe quel végétal, une plante, qui se prononce en chinois moderne mu. Et donc, si vous ajoutez un trait en bas de ce caractère, vous avez la racine. Et si vous l'ajoutez en haut, un trait en haut, ce sont les branches. Donc, cette opposition entre les racines, pen, et les branches, mo, c'est une opposition tout à fait classique dans la littérature chinoise ancienne. Donc, ces rites, nous dit le Xunzi, ont trois racines, à savoir donc le tianti, c'est-à-dire le ciel-terre, autrement dit le cosmos, qui est donc la racine de la vie, les ancêtres, xianzu, vous avez également l'inverse, zhu xian, c'est la même chose, ce sont les ancêtres, qui sont donc la racine du lei, c'est-à-dire de l'espèce, on pourrait dire, ou de la famille. Et enfin, donc, en troisième lieu, les tunshi, c'est-à-dire donc les princes et les maîtres, qui sont donc la racine du zhi, c'est-à-dire de l'ordre sociopolitique. Alors donc, le ciel et la terre, les ancêtres, les princes et les maîtres sont ce que on a appelé les wuta, c'est-à-dire donc que vous avez ici les cinq grands. Et ces cinq grands ont fait l'objet d'un culte à partir surtout du XIIe, XIIIe siècle, c'est-à-dire donc à partir de l'époque Song jusqu'à l'époque Ming, donc d'un culte qui correspond à une volonté certaine de confucianiser la société chinoise et qui est encore pratiquée aujourd'hui. Alors vous avez ici donc une tablette qui porte ces cinq caractères, donc Tian, le ciel, Ti, la terre, Jun, donc le prince ou le souverain, ou ça peut être l'empereur, Qin, c'est-à-dire donc les parents ou la famille, la parenté, qui est mis pour les Zhuxian, c'est-à-dire les ancêtres, et enfin les Shi, c'est-à-dire les maîtres. Donc on remarquera que ici, la priorité est donnée au Jun, c'est-à-dire donc au prince ou à l'empereur, par rapport à la famille, c'est-à-dire Qin que vous avez ici, puisque en fait dans le texte du Xunzi, vous avez l'inverse, hein, c'est-à-dire la famille vient avant donc l'ordre du prince. Alors dans, donc j'ai repris donc ces cinq grands ici. En schématisation. Donc, dans les campagnes chinoises, notamment, cette tablette verticale, qui peut être tout simplement une bande de papier portant ces cinq caractères, tenait lieu donc d'autel des ancêtres au centre de la maison. Donc, vous avez ici donc une photo tout à fait contemporaine, donc de quelqu'un qui est en train de prier et de brûler de l'encens devant cette tablette avec ces cinq caractères que vous reconnaissez ici. Donc, vous avez ces mêmes cinq caractères qui sont reproduits ici. Et qui apparaissent dans un ensemble donc d'inscriptions verticales qui sont elles dédiées soit à des divinités qui peuvent être des divinités bouddhistes aussi ou aux ancêtres. Alors lors de l'avènement de l'ère républicaine, après la chute définitive de la dynastie Manchu et avec elle de tout le régime impérial en 1911, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un siècle, le caractère Tun, ici au milieu, a été, ce caractère Tun qui désigne l'empereur, donc, a été remplacé par le caractère Kuo qui signifie donc le pays. Et donc ce remplacement de la mention de l'empereur par la désignation du pays est censé donc marquer le passage de l'empire à l'état-nation, hein, qui était devenu donc la Chine entre-temps, hein, c'est-à-dire donc avec ce basculement de 1911 et ce passage du régime impérial au régime républicain. Mais après l'instauration de la République populaire de Chine et du régime maoïste en 1949, et surtout pendant la révolution culturelle des années 1966 à 1976, ces 10 années qui ont marqué, on pourrait dire, le paroxysme du régime maoïste, Donc à partir de ces années-là, donc dans les années 50 jusqu'aux années 70, l'autel des ancêtres a été considéré comme un vestige des superstitions féodales, donc dans le vocabulaire de l'époque, les fondiers mixin, et un vestige de ce qu'on appelait la vieille société, la tiao shehui. Et donc cet autel des ancêtres a été le plus souvent carrément enlevé ou détruit pour laisser place à donc un poster du grand timonier, le président Mao, lequel s'est donc de facto retrouvé à la place de l'empereur, voire en quelque sorte divinisé. Donc là, vous avez un exemple, et ici, vous avez aussi donc ce buste du président Mao sur une sorte d'autel, avec justement devant les offrandes, alors l'alcool et diverses choses donc qui étaient auparavant offertes aux ancêtres. Mais donc après la révolution culturelle, dans certaines maisons, on a quelquefois gardé donc cette figure du président Mao, ou alors on a remis donc ces cinq caractères donc des cinq grands. Alors un anthropologue allemand du nom de Hans Steinmüller, qui enseigne actuellement à la London School of Economics, à la LSE, et qui a travaillé en anthropologie rurale de la Chine, a effectué donc une enquête de terrain dans une zone rurale de la province du Hubei, dans la Chine centrale, entre 2005 et 2007, et a publié à ce sujet donc un article paru en 2010 dans la revue Focal, The Journal of Global and Historical Anthropology, c'est-à-dire le journal de l'anthropologie globale et historique. Et dans cet article, donc là, vous avez ici une photo qui n'est pas de Steinmüller, mais que j'ai trouvée tout simplement sur Baidu, donc le Google chinois. Vous avez donc une photo de ces cinq caractères donc, qui sont installés sur cette espèce d'autel des ancêtres. Ici, vous avez la version plus classieuse, c'est la version de luxe de ce même hôtel. Et ici, donc, vous avez un dessin qui est reproduit dans l'article de Hans Steinmüller et qui est dû à un certain monsieur Song, que Steinmüller appelle Song Laoshi, c'est-à-dire donc maître Song. Donc là, ici, il y a une espèce de rapport de respect vis-à-vis justement du maître. Alors, ce monsieur Song est apparemment un habitant du village où Steinmüller faisait son terrain anthropologique. Et ce monsieur Song était chargé de lui donner un enseignement de chinois classique et, je cite, de culture locale. Et donc, monsieur Song lui a fait ce dessin où vous voyez donc de nouveau reproduit ces cinq caractères, donc Tian Di Jun Qin Shi, c'est-à-dire donc ciel, terre, prince, famille ou parents et maître. Et donc il lui a schématisé au fond la disposition donc de l'autel des ancêtres. Et Steinmüller nous donne ensuite la schématisation de la disposition spatiale de cet autel des ancêtres qui occupe le centre de la maison. Vous avez ici, en position numéro 1, donc, le Ancestral Shrine, c'est-à-dire donc l'autel des ancêtres, ou le Mao Poster, c'est-à-dire donc vous avez soit justement cet autel des ancêtres ou il est occupé par la figure de Mao. Et vous voyez donc que cet autel des ancêtres occupe une position centrale et axiale. Vous avez ici l'axe de la maison avec une disposition symétrique des portes principales, donc à double battant, ici en face de l'autel des ancêtres, la pièce principale où se trouve cet autel, et de chaque côté donc les chambres latérales qui sont disposées donc de façon symétrique par rapport à ce centre et par rapport à cet axe. Alors cet axe qui donc oriente, enfin, qui détermine l'orientation de la maison en vertu des fameux principes de géomancie ou de ce qu'on appelle en chinois le feng shui, hein, c'est-à-dire littéralement le vent et l'eau, qui donc décide en particulier de l'exposition et l'orientation des maisons en fonction justement de la circulation de l'air et de l'eau. Vous avez cet axe, cette disposition spatiale, qui correspond également à une disposition hiérarchique des membres de la famille. Et donc Steinmüller nous donne ici donc la schématisation d'une table de banquet, donc une table ronde, comme vous en voyez très souvent, même ici dans les restaurants chinois, donc avec le plateau tournant au milieu. Donc une table ronde qui est où les convives en fait sont disposés toujours en fonction de cet axe central. Donc le numéro 1, c'est donc le membre le plus important de la famille, ça peut être le chef du clan, qui est assis toujours du côté de l'autel des ancêtres. Et à l'opposé, vous avez donc le membre hiérarchiquement le moins important, donc, qui lui est du côté de la porte, avec donc la disposition symétrique des autres membres de part et d'autre de la table. Donc cette disposition spatiale, nous allons la retrouver plus tard, donc c'est pour ça que je vous la montre, pour que vous vous souveniez un petit peu justement de l'importance de cette spatialisation. Alors, ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est que depuis les sources anciennes, puis impériales, et jusque dans les pratiques cultuelles contemporaines, toute la vision chinoise du monde est habitée par la continuité entre, d'une part, le ciel-terre, c'est-à-dire l'ordre cosmique, et d'autre part, l'ordre humain, qui se traduit en termes politiques d'autorité du prince et, on pourrait dire, en termes sociaux, de transmission de génération en génération, de maître à disciple. Et vous avez donc la continuité entre l'ordre cosmique et l'ordre humain qui est assurée par le culte rendu aux ancêtres. Alors, vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, nous avons un petit peu insisté sur ce continuum établi par la culture ritualiste entre l'humain et l'au-delà de l'humain. Alors l'au-delà de l'humain, ça peut être une dimension cosmique, la dimension de ce que les Romains appelaient le numineux, le noumen, ou bien la dimension invisible, la dimension yin. Et donc, dans ce continuum, le rôle axial est tenu par les ancêtres et le culte dont ils sont l'objet. Alors, ce culte des ancêtres comme on l'a vu, a occupé une place centrale dès la haute antiquité des Shang, c'est-à-dire au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, où on voit une multiplicité de cultes et de sacrifices qui sont rendus à des puissances de la nature. Ça peut être des fleuves, ça peut être des montagnes, des vents, des points cardinaux, mais se dégage l'importance des sacrifices et des actes de divination qui sont dédiés aux ancêtres royaux. On a le sentiment donc que ce culte aux ancêtres royaux apparaît donc de façon beaucoup plus organisée que ces divers cultes réservés aux divinités naturelles. Alors, les ancêtres sont perçus comme des esprits, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au monde des Kueishen, c'est-à-dire des manes et des esprits, puisqu'ils résident dans le monde des morts. Mais en même temps, les ancêtres maintiennent un lien organique avec leurs descendants vivantes. Et en tant que tels, c'est-à-dire en tant que résidents à la fois dans le monde invisible des esprits et en même temps en ayant ce lien organique avec les descendants vivants, ils sont susceptibles d'assurer une médiation avec donc les puissances surnaturelles. Donc les ancêtres ont ce statut très particulier donc de continuer à jouer un rôle dans la communauté humaine des vivants, et donc ils gardent leur statut dans la parenté, et en même temps donc ils sont susceptibles d'intercéder auprès des divinités pour le compte de leur descendance vivante. D'où l'importance évidemment des cultes funéraires donc dans la Chine ancienne et classique et jusqu'à aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Alors, ces ancêtres qui sont donc l'objet de ces rites funéraires ont attiré donc l'attention de pas mal d'observateurs européens jusqu'à la fin du XIXe siècle, où vous avez donc cet historien des religions néerlandais, donc Jan Jacob Maria de Groot, qui a vécu entre 1854 et 1921, et qui a produit donc un monumental ouvrage intitulé The Religious System of China, Its Ancient Forms, Evolution, History and Present Aspect, Manners, Customs and Social Institutions Connected Therewith. Donc je traduis, c'est le système religieux de la Chine, ses formes anciennes, son évolution, son histoire et son aspect présent. Donc, manières, coutumes et institutions sociales associées donc à ce système religieux. Donc, c'est un énorme travail qui est paru en trois volumes en Hollande, à Leiden, entre 1892 et 1897. Et dans ce monumental ouvrage, de Groot fournit une description extrêmement détaillée des rites funéraires tels qu'ils étaient pratiqués en Chine à son époque, c'est-à-dire donc à la toute fin du XIXe, tout début du XXe siècle, ce qui est un témoignage absolument unique sur justement ces pratiques hérité donc de la Chine impériale avant que la Chine ne passe au régime républicain et décide donc de séculariser à tout va. Donc beaucoup de temples dédiés aux ancêtres, etc., en fait, ont été sécularisés ou carrément détruits peu de temps après donc, les observations de Groth. Et Marcel Mauss, donc, notre sociologue français, donc, qui a vécu, qui est un contemporain de Groth, qui a vécu entre 1872 et 1950, a fait donc un compte-rendu du travail de Groth, et il dégage des observations de Groth ce qui lui paraît le plus frappant, c'est-à-dire donc le caractère, je cite, « familial » de la sépulture. Le mort est enterré donc au milieu de sa famille et garde cette place centrale donc dans la maison, grâce justement à la présence de cet autel des ancêtres. Et Marcel Mauss dégage également du travail de Groth justement cette conclusion selon laquelle l'accomplissement, je cite, de tous les devoirs funéraires se répercute en succès et en bonheur dans la carrière des survivants. Si le mort est enterré un jour favorable, à un endroit favorable, selon les principes du feng shui, toute la famille prospère. Et c'est ce qui fait conclure à Mauss que la vie des morts encombre celle des vivants. C'est-à-dire que non seulement les morts continuent à être présents dans l'existence des vivants, mais ils sont, on pourrait dire, presque omniprésents. Et Marcel Granet, donc, qui représente l'école sociologique de Mauss et de Durkheim, rappelle dans un article de 1924 qu'en Chine, le sacré et le profane ne se sont jamais appropriés de domaines strictement séparés et qu'il n'y a pas en Chine de règne séparé du divin. Il n'y a pas un monde des dieux superposé au monde des hommes. Donc, en tant que sociologue, Granet énonce ici un point important que les anthropologues ont depuis repris à leur compte, à savoir cette constatation d'un fondamental continuisme entre naturel et surnaturel, entre visible et invisible dans ces conceptions de la Chine ancienne et continuisme qui, on l'a vu, ôte une grande partie de sa pertinence à la catégorie de religion quand elle est appliquée au contexte confucéen. Et les anthropologues contemporains rappellent pour leur part que l'entité appelée Tia, c'est-à-dire la maison, mais la maison au sens de famille ou de patrilignage, cette maison Tia inclut aussi bien les vivants que les morts, c'est-à-dire les ancêtres qui sont donc maintenus dans la communauté des vivants par le culte qui leur est rendu et dont les vivants attendent en retour protection et bienfaits. Et on peut dire qu'en ce sens, le culte des ancêtres, qui est probablement l'un des rares à être pratiqué à tous les échelons de la société chinoise, constitue donc à ce titre un véritable ciment du corps social. Alors, je rappelais l'année dernière donc les travaux de l'historienne américaine Patricia Ebray sur ce qu'elle appelle donc les family rituals dans la Chine impériale. Vous avez ici le titre en anglais, Confucianism and Family Rituals in Imperial China, A Social History of Writing About Rites, paru aux presses universitaires de Princeton en 1991. Donc, confucianisme et rituels familiaux dans la Chine impériale, une histoire sociale des écrits à propos des rites. Donc, Patricia Ebray rappelle que les rituels familiaux ou domestiques qui concerne les mariages, les funérailles et le culte des ancêtres sont ceux qui visent précisément à assurer la continuité et la perpétuation de la transmission humaine de génération en génération. Et ce qui fait pour elle le caractère assez spécifique du cas chinois, c'est la pérennité remarquable du contenu symbolique, du moins, de ces rituels familiaux. Et elle constate que beaucoup de pratiques qui sont décrites dans les textes anciens, dans les classiques anciens, comme étant propres à l'aristocratie, ont continué à être accomplies 2000 ans plus tard par le commun du peuple, malgré de très importants changements dans la structure sociale et notamment malgré l'introduction avec le bouddhisme de conceptions cosmologiques radicalement différentes. Donc là, vous avez une remarquable continuité dans le temps qui est constatée par les historiens. Et de la même façon, vous avez des constatations similaires du côté des anthropologues. Vous avez ici, en bas de la diapositive, la mention donc d'un ouvrage qui a été coédité par un anthropologue, James Watson, et une historienne, Evelyn Rosky, qui ont donc coordonné cet ouvrage collectif qui s'intitule « Death Ritual in Late Imperial and Modern China », donc les rituels funéraires dans la Chine de la fin de l'Empire et dans la Chine moderne, paru donc aux Presses universitaires de Californie en 1988. Et dans cet ouvrage, donc, James Watson, en tant qu'anthropologue, insiste donc sur ce qu'il appelle le processus de standardisation du rituel, qui, selon lui, est véritablement constitutif de la société chinoise. Et il nous dit même que, je cite, « être chinois, c'est comprendre et accepter l'idée qu'il y a une façon correcte d'accomplir les rites associés au cycle de la vie, les plus importants étant ceux du mariage et des funérailles. » Et le point de vue anthropologique de James Watson est doublé en quelque sorte par le point de vue historiciste de Evelyn Rosky, qui, elle, met l'accent justement sur cette continuité des liens de parenté entre les vivants et les morts, la croyance selon laquelle les ancêtres pouvaient intercéder auprès des divinités pour leur compte, pour le compte de leurs descendants vivants, et qui explique donc cette pérennité des rites funéraires. Alors, le culte aux ancêtres trouve son équivalent en quelque sorte au sein de la vie sociale des vivants dans la piété filiale, ce terme de xiao que vous avez ici, donc souligné en rouge, dont nous avons commencé à parler l'année dernière. Cette piété filiale, qui est autant une vénération entretenue pour la mémoire des ancêtres ou des parents défunts qu'un respect pour les parents vivants. Donc la piété filiale, c'est aussi quelque chose qui entretient cette continuité, ce lien homologique entre les vivants et les morts. Et cette piété filiale fonde également cette relation homologique entre le culte aux ancêtres, les rites funéraires et donc la piété vis-à-vis des parents vivants. Et c'est une, de toute évidence, une préoccupation centrale dans les entretiens attribués à Confucius, dont vous avez ici une citation que vous trouvez au livre 2, chapitre segment 5. Alors, vous avez ce personnage, Moïse, qui demande à Confucius, qui pose à Confucius une question sur le xia, qui demande ce que c'est que la piété filiale. Et Confucius répond « Sheng shi zhi yi li, si zang zhi yi li, ji zhi yi li. » Donc, du vivant, sous-entendu des parents, la piété filiale consiste à les servir selon les rites. Si, donc à leur mort, la piété filiale consiste à les zhangzhiili, c'est-à-dire à les inhumer selon les rites, c'est-à-dire donc pratiquer les rites funéraires. Et ensuite, après leur mort, donc il s'agit de rendre à leur mâne des sacrifices, des offrandes, selon les rites. Donc vous avez ici une phrase en trois membres qui vous résume justement ce lien homologique entre la piété filiale due aux parents vivants, les rites funéraires au moment donc de leur mort et donc le culte aux ancêtres après donc leur mort. Alors, dans un autre passage des entretiens que vous trouvez au livre 17, segment 21, figure un échange assez vif entre Confucius et un personnage appelé Zaiwo, qui est un disciple de Confucius, mais que Confucius n'a pas l'air d'apprécier beaucoup. On a plusieurs appréciations dans la bouche du maître à propos de ce disciple qui est considéré comme quelqu'un d'assez paresseux et qu'on voit réprimandé à plusieurs occasions donc par le maître. Donc c'est un petit peu le cancre de la bande à Confucius en quelque sorte. Alors on a ici une discussion très intéressante, qui porte sur la règle du deuil de 3 ans, qui est prescrit donc par les rites pour les parents défunts. Alors, en fait, ce deuil de 3 ans, ça signifie en réalité un deuil jusqu'à la 3e année, donc après le décès donc des parents, c'est-à-dire en réalité donc un deuil qui devrait durer 25 mois. Je rends au passage un hommage à mon mari défunt justement il y a 3 ans. Alors là, il s'agit en fait du deuil dû aux parents qui est de 3 ans parce qu'il fait référence aux 3 années que les parents ont passé à nourrir et à protéger l'enfant. Et donc, en fait, c'est un principe de réciprocité, puisque l'enfant doit à son tour à ses parents le même temps de deuil. Donc là, nous avons un principe rituel qui est fondé, au fond, dans une logique proprement humaine. Alors, la discussion est enclenchée par le fait que ce disciple Zaiwo propose en tout cas de réduire ce deuil de 3 ans à 1 an. En se prévalant en plus d'arguments de type utilitariste, ce qui ne manque pas de provoquer l'indignation du maître. Alors là, vous avez donc toute la conversation donc entre ce disciple et le maître. Zaiwo wen. Donc, Zaiwo pose cette question. San nian zhi sang, qi yi jiu yi. Donc, le deuil de 3 ans, est-ce que, au fond, un qi, c'est-à-dire une année, ne serait pas déjà assez longue, hein, c'est-à-dire, au fond, ce que Taiwo demande, c'est pourquoi il faudrait observer 3 années de deuil alors qu'une seule suffirait largement. Et son argument, donc, qui suit, est en fait prend justement le rituel à contre-pied. Il dit ceci: Junzi san nian bu wei li, li bi huai. San nian bu wei yue, yue bi peng. C'est-à-dire donc si le Junzi, l'homme de bien, qui est donc l'idéal humain confucéen, si l'homme de bien n'entretient pas les rites, en 3 ans, ces rites risquent de huai, c'est-à-dire de tomber en désuétude, hein, littéralement de s'abîmer. Et de même, pour ce qui est de yue, la musique rituelle, hein, si elle n'est pas pratiquée pendant 3 années durant, elle risque de peng, c'est-à-dire de s'éteindre. Donc là, l'argument du disciple, c'est de dire que 3 ans, c'est beaucoup trop long, parce que uniquement, ne serait-ce que pour des raisons rituelles, hein, c'est-à-dire si on ne pratique pas les autres rites que les rites funéraires pendant 3 ans, tout ça risque de s'éteindre ou de tomber en désuétude. Alors, jiuku ji mo, xingu ji sheng. Or, en une année, un qi, donc, le jiuku, c'est-à-dire la récolte de l'année précédente, a largement le temps d'être consommé, et le xingu, c'est-à-dire le grain nouveau, de mûrir, et les différentes sortes de bois qu'on utilise pour pendant l'année ont le temps de donner donc du feu nouveau. Autrement dit, on a le temps d'utiliser toutes les sortes de bois pendant toute l'année. Et donc, qi ke yi, donc une année de deuil devrait suffire. Alors le maître lui rétorque, zi yue, shi fu dao. Yi fu jin, yu ru an hu. Donc, est-ce que tu te sentirais an, c'est-à-dire l'esprit en paix, est-ce que tu te sentirais à l'aise ici, pour ceux d'entre vous qui lisent un peu le chinois, donc ici, ce caractère ne doit pas être prononcé comme la femme nue, hein, mais c'est un caractère qui est mis pour la deuxième personne du singulier Zhu. Donc, est-ce que tu te sentirais à l'aise au bout d'un an de shifu tao, c'est-à-dire de manger du riz de qualité, et de yifu jin, c'est-à-dire de porter donc de la soie ou du brocart, hein, autrement dit, de considérer qu'au bout d'un an le deuil est terminé. Alors, réponse du disciple: yue an. Oui, oui, parfaitement, je me sentirais tout à fait à l'aise. Alors, réponse assez furieuse du maître, donc, Ru an, zhe wei zhi. Ben, écoute, si ça va bien pour toi, ben, fais-le, hein, ne te gêne pas. Fu jun zi zhu ju sang, shi zhi bu gan, wen yue bu le, ju chu bu an, gu bu wei ye. Jin ru an, zhe wei zhi. Donc, un homme de bien, tant qu'il est en deuil, shi zhi bu gan, c'est-à-dire ne trouve aucune saveur dans les plats, hein, même s'ils sont très bons, il ne trouve aucun plaisir dans la musique, aucun repos dans sa propre demeure. En effet, donc le fils en deuil était censé vivre dans une cabane en dehors de la maison, hein, pendant donc 25 mois. Hein. Donc, un homme de bien ne ferait pas comme tu dis, mais toi, si tu te sens à l'aise, fais-le donc. Là-dessus, vous avez une didascalie, donc Zai Wo Chu, donc Zai Wo sort, hein, il quitte donc l'endroit où il se trouve avec le maître, et une fois que le disciple est parti, le maître reprend la parole, Zi Yue, en disant Yu Zhi Bu Ren Ye. Yu, c'est un autre nom de ce disciple, Zai Wo, hein, c'est son nom personnel, donc. Ce Yu, quel être dépourvu de qualité humaine, hein, Bu Ren, hein, autrement dit, il n'a pas un cœur humain. Zi Sheng San Nian, Ran Ho, Mian Yu Fu Mu Zhi Huai. Donc, un Zi, c'est-à-dire un enfant, un nouveau-né, hein, ça n'est qu'au bout de 3 ans qu'il peut littéralement donc quitter le giron de son père et de sa mère, Fu Mu Zhi Huai. Alors ça, je peux vous le dire parce que j'habite au-dessus d'un appartement qui est habité par un jeune couple qui a eu un enfant il y a l'année dernière, et j'aime mieux vous dire que l'enfant occupe vraiment toute la place, y compris en fait le l'appartement des voisins du dessus. Hein. Donc, je peux vous confirmer que ça n'est qu'au bout de 3 ans qu'un nouveau-né peut quitter le giron de ses parents. Hein. Alors, voilà pourquoi le deuil filial est... Fu san nian zhi sang, tian xia zhi tong sang ye, yu ye, you san nian zhi ai, yu qi fu mu hu. Donc, voilà pourquoi donc le deuil de 3 ans pour les parents est pratiqué tian xia zhi tong, c'est-à-dire donc il est pratiqué partout sous le ciel. Alors là, j'attire votre attention justement sur cette expression donc tong, c'est-à-dire qu'il est pratiqué universellement. Tian xia, sous le ciel. Donc là, nous avons l'expression justement ancienne de cette universalité à la chinoise sur laquelle évidemment nous allons travailler à partir de maintenant. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur cette expression. Et Confucius conclut en disant ce Yu, donc ce disciple Zai Wo, est-ce qu'il n'a pas eu l'amour de ses parents pendant 3 ans, on se le demande. Ici, vous voyez exprimer l'indignation du maître qui dit il faut vraiment être totalement inhumain pour vouloir rabioter sur, si j'ose dire, sur le deuil dû aux parents défunts, le réduire à 1 an, parce que c'est une façon, comment dire, de ne pas reconnaître ce principe de réciprocité. Les parents vous portent au moins pendant 3 ans, et c'est donc normal, logique, que à leur mort, vous leur deviez donc ce deuil de 3 ans. Et vous trouvez donc une confirmation justement de cette idée de l'universalité de ce principe rituel dans un ouvrage attribué à Mengzi, à Mencius, donc qui est l'un des héritiers principaux de l'enseignement confucéen au IVe siècle avant l'ère chrétienne. Dans ce passage de la première partie du livre 7 au paragraphe 15, Mencius donc affirme que vouer un culte aux parents défunts et aux ancêtres ne procède pas d'un sens du devoir ou de l'obligation morale imposée de l'extérieur, mais beaucoup plus naturellement de la conscience interne et intrinsèque d'être humain. Donc vous avez ici en fait quelque chose qui vient corroborer ce que nous venons de dire dans les entretiens. Alors Meng Ziyue, ici, donc maître Meng Di. Vous voyez donc la similitude de la présentation du mensus par rapport au Luanyu, donc aux entretiens de Confucius. Tous les propos sont introduits donc par la formule maître Meng Di. Donc, Ren zhi suo bu xue er neng zhi, qi liang neng ye, suo bu lu er zhi zhi, qi liang zhi ye. Alors, ce dont l'homme est capable sans l'avoir appris, il le tient de son liang neng, c'est-à-dire de sa capacité intrinsèque. Alors ici, Meng Zi parle en fait d'une capacité morale. Et ce dont il a conscience sans y avoir réfléchi, sur boulu, il le tient de sa conscience morale intrinsèque. Et là, donc, il arrive avec un exemple. Hai qi zhi tong, wu bu zhi ai qi qin zhi, ji qi zhang ye, wu bu zhi jing qi xiong ye. Alors, des petits enfants qui sont encore portés dans les bras, il n'en est aucun qui ne sache aimer ses parents. Et une fois qu'il est grand, qu'il a grandi, qu'il est devenu adulte, il n'en est aucun qui ne sache respecter ses aînés, ses frères aînés. Et la conclusion donc, de ce passage, c'est « qin qin ren ye, jing zhang yi ye, wu ta da zhi tian xia ye ». Donc, « qin qin », c'est-à-dire littéralement « aimer ses parents ». Alors, vous avez ici donc, quelque chose d'intéressant du point de vue syntaxique. Donc, vous voyez que ce mot « qin » peut être utilisé comme substantif et comme verbe. Donc, ici, donc, « aimer » c'est « qin », aimer ses parents, c'est donc le propre de l'humain, « zhen ». Ça tient au sens de l'humain. Et « jing zhang », respecter ses aînés, ceux qui sont plus âgés que vous, « yi » tient au sens du juste. Et « wu ta », ces choses-là, donc, ne tiennent à rien d'autre qu'au fait qu'elles tajje tianxia, c'est-à-dire qu'elles sont diffusées partout sous le ciel, c'est-à-dire qu'elles ont valeur universelle, elles valent partout sous le ciel. Et vous retrouvez ici donc cette expression que nous avons vue tout à l'heure, donc le tianxia zhi tong, ici vous avez donc tajje tianxia, c'est-à-dire donc cette diffusion partout sous le ciel. Donc dans ces deux textes, les entretiens et le mensus, le ritualisme au fond, qui se traduit par la piété filiale, le deuil de trois ans, le respect pour les aînés, etc., est présenté non pas comme un ensemble de conventions, mais comme directement issu de l'universalité de l'expérience humaine. Et je conclurai ici en disant que, au fond, et c'est ça tout le paradoxe, c'est ce qui apparaît comme le plus culturellement spécifique, tout ce que je vous ai montré à propos de ce culte des ancêtres, ces Chinois qui brûlent de l'encens devant un autel, etc. Donc ça paraît très très exotique, ça paraît très culturellement marqué, spécifique. C'est au fond ce qui est le plus culturellement spécifique, qui est au fondement de ce qui est le plus universellement humain. Cette façon de, comment dire, de faire du deuil de trois ans, comment dire, une sorte de retour tout à fait naturel de l'amour que les parents ont pu vous porter quand vous étiez nouveau-né, c'est véritablement ancré dans l'universalité de cette expérience humaine. Et donc, puisque nous avons tellement parlé de nouveau-né, je terminerai en vous souhaitant donc un bon Noël et de très bonnes fêtes, en attendant donc de vous retrouver dès le premier jeudi de janvier, donc ici même. En tout cas, je l'espère. Bonne fête à vous. Merci.